Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
Bonjour Aurélien.
Bonjour Aurélien.
J'ai eu un écho de Valérie.
En cœur.
Et oui, aujourd'hui, comme vous allez l'entendre, nous sommes trois à présent. Enfin, ils seront deux parce que moi, je parle pas beaucoup, comme d'habitude. Mais
on est trois.
Voilà, on est trois. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui va nous renseigner un peu sur le droit animalier.
Oui, exactement. Alors Olivia Tsimniakos, qui est spécialisée dans le droit animal. Donc on en a vraiment besoin pour la cause que l'on défend. Donc merci Olivia d'être parmi nous.
Merci pour votre invitation.
Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais en deux minutes, pour ce que nos auditeurs sachent qui tu es, quoi.
Alors, je suis Olivia Tsimniakos, je suis donc avocate en droit animalier. Je suis fondatrice du cabinet Animalex Avocat, qui ne pratique que du droit animalier. Le cabinet est basé à Annecy, mais je plaide sur toute la France et sur toutes les matières que recouvre le droit animalier. Pour ce qui est de mon actualité, je viens de sortir un livre coécrit avec Valérie Perronnet qui s'appelle « Au nom de tous les animaux » aux éditions Les Arènes. Voilà pour mon actualité.
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Ah, oui.
Ouais. Oui, ça occupe.
Et pourquoi alors le droit animalier? Pourquoi pas droit pénal, humain ou je sais, pourquoi le droit animalier?
Alors ça a été un long cheminement. Hein. Au départ, je faisais du droit des affaires. Au départ, je ne voulais pas être avocate non plus. Je suis devenue avocate un petit peu par la force des choses parce que j'ai eu l'opportunité de m'associer dans le cabinet au sein duquel je travaillais et qu'il fallait du coup devenir avocate. Donc j'ai pris ce qu'on appelle la passerelle pour devenir avocate. Mais je faisais du droit des affaires et puis un concours de circonstances a fait que je me suis dirigée vers le droit des sociétés. J'ai commencé par créer un petit département droit des sociétés au sein de ce cabinet en droit des affaires. Et puis j'ai pratiqué le droit animalier, puis j'ai eu envie d'en faire. Et puis en 2018, j'ai décidé qu'il allait falloir faire quelque chose. Et en 2019, j'ai tout laissé tomber, j'ai créé Animalex. J'ai dit, si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, je quitterai la profession, puisque ce n'est pas une profession que je voulais faire. Et puis, je ferai autre chose.
Et ça marche.
Pour l'instant, je me lève le matin, je me sens utile. Et pour moi, c'est ce qui compte. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune difficulté. Je n'ai jamais regretté mon choix de laisser tomber le droit des affaires.
Et vous êtes un groupe d'avocats spécialisé dans le droit animalier, alors il y a d'autres avocats qui se sont...
Mon cabinet Animalex, c'est juste moi. Je travaille en partenariat avec le cabinet de Céline Pécavi, qui est sur Versailles, qui fait du droit animalier depuis 22 ans maintenant. Donc, je n'ai rien inventé. Hein. Elle était là bien avant. elle est plus axée, elle, sur le côté contractuel. Mais donc on travaille en partenariat toutes les deux.
Tu peux nous définir le droit animalier, ce que ça couvre exactement?
Alors, le droit animalier, c'est une matière très, très vaste et ça recouvre toutes les règles applicables à notre relation aux animaux. Alors, ça va être des petits bouts de plein de droits, parce qu'on dit droit animalier, mais le droit animalier, en fait, c'est une thématique de travail autour de l'animal. On va avoir un petit peu de droit civil, par exemple, le droit de la propriété, quand il y a un divorce, on ne sait pas trop à qui est le chien. On va avoir du droit de la responsabilité, on va avoir, bien sûr, du droit pénal. Et beaucoup de gens pensent que le droit animalier, ça se limite au droit pénal, mais absolument pas. Et puis, même en droit pénal, ça ne se limite pas aux maltraitances. On va avoir des dossiers de vol, on va avoir des dossiers de responsabilité aussi, mais pénal. Après, on va avoir des petits bouts de droit rural, puisque le code rural apporte énormément de règles dans notre relation aux animaux. On va avoir du droit d'environnement, avec quelques articles dans le code de l'environnement pour la protection des espèces sauvages protégées, bien sûr. On va avoir aussi du droit public, pour tout ce qui est quand il y a un arrêté, que ce soit un arrêté d'euthanasie d'un chien, par exemple, ou un arrêté préfectoral d'abattage d'un cheptel ou autre. Donc voilà, c'est un petit bout de plein de droits. Donc on touche à plein de droits. On plaide devant toutes les juridictions. Et donc, du coup, faut maîtriser toutes les procédures.
Et tous les codes, parce qu'on retrouve du droit animalier dans le code rural, dans le code pénal, dans le code civil.
Des petits bouts de tout. Ils ont sorti un code de l'animal qui est un recueil, en fait, de tous les textes applicables. Enfin, de tous les textes, il y a un peu de jurisprudence et peut-être pas exhaustif non plus, mais bon, il est épais comme ça. Après, c'est pas un code de l'animal, on dit pas article 30 du code de l'animal, évidemment, mais ça montre quand même qu'il y a énormément de matière. Et cette matière, ben, elle provient de sources diverses et variées.
Ouais. Les laisser pour compte, dans toutes ces lois, c'est plutôt les animaux sauvages, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui les concerne.
Oui, tout à fait. Dès lors qu'ils ne font pas partie d'une espèce dite protégée, sachant qu'une certaine espèce protégée, on la bute quand même. Mais de toute façon, le degré de protection des animaux, il dépend de sa proximité avec l'humain, de son utilité. Et on va considérer que l'animal sauvage, bon, à part les loisirs pour certains, mais ça ne sert à rien. Et donc, ben, il n'y a pas lieu de protéger. Pourtant, le Code civil, il nous dit bien, l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Il ne nous précise pas quel animal l'est et quel animal l'est pas. Mais par contre, le Code pénal le précise. Le Code pénal protège les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Donc, si vous êtes un animal sauvage, pas apprivoisé et pas tenu en captivité, eh ben, ça ne va pas être simple.
Les lois existent, mais la justice ne les applique pas forcément. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ben en fait, c'est le travail de la justice d'appliquer la loi, mais surtout d'adapter la peine à une situation, à un prévenu, à la situation du prévenu, etc. C'est ça le travail de la justice. Le code pénal, il nous donne des peines maximales. Mais effectivement, alors on se dit toujours, ah, mais on n'obtient jamais les peines maximales. Non, c'est une peine maximale. Et après, le dossier fait que le magistrat, et c'est son travail. Si c'était le code pénal qui fixait les peines, il n'y aurait plus besoin de magistrat. On dirait, bon, bah, il a fait ça, coupable, pas coupable, et puis la peine maximale. Donc non, il faut adapter, c'est le travail du magistrat. Les gens ne savent pas nécessairement que, par exemple, pour fixer le montant d'une peine d'amende, le magistrat doit tenir compte de la situation de fortune du prévenu. Parce que des fois, on a des décisions où on a, je dis n'importe quoi, une peine d'amende de 400 euros. Alors on se dit, non mais attends, c'est ridicule, 400 euros, c'est même pas le prix d'un téléphone. Maintenant, bon, le gars, il va en tirer aucune leçon. Sauf que si le gars, il est au RSA, pour lui, 400 euros, c'est un mois de revenu. Donc l'impact, il va être un petit peu différent d'une peine de celui qui aurait une peine de 400 euros sur un type qui gagne 10 000 euros par mois. Donc voilà, il faut toujours raisonner en termes d'impact et c'est là tout le travail du magistrat en fait.
Là, tu parles de peines financières, mais il y a aussi les peines de prison et de sursis qui peuvent bien sûr entrer en considération.
Oui, tout à fait. Alors pour les contraventions, on encourt uniquement une peine d'amende. Et pour les délits, on encourt une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. Alors pour les peines d'emprisonnement, souvent il y a du sursis. Parfois, il y a du ferme. Hein, mais souvent, il y a du sursis. Et moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent qu'il y ait du sursis. Alors que moi, quand j'ai du sursis, je suis plutôt contente. Parce que pour moi, c'est plus protecteur des animaux. Alors ça peut paraître bizarre hein, comme raisonnement, mais une peine de prison ferme, c'est aménageable. C'est-à-dire que si le gars se prend 3 mois d'emprisonnement ferme, il va pouvoir demander un aménagement et obtenir un aménagement. Et il aura un bracelet à la cheville pendant 3 mois. Et puis au bout des 3 mois, merci, au revoir, ça y est, j'ai purgé ma peine. Voilà. S'il se prend 3 mois avec sursis, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en général pendant 5 ans, qui fait que si jamais il fourche pendant cette période de sursis, non seulement il va être condamné pour l'infraction suivante, mais en plus, la peine là va se transformer en peine ferme. Donc il y a quand même une durée de protection de l'animal qui est autre. Donc moi, quand j'obtiens des décisions, c'est pas moi qui demande des peines pénales, hein, bien sûr, mais quand j'ai une décision dans un de mes dossiers où il y a une peine d'emprisonnement avec sursis, je suis pas du tout déçue. Je me dis, voilà, pendant 2 ans, pendant 5 ans, le gars, il sait que si il fait la moindre, il commet la moindre infraction, bah, il ramasse quoi. Donc je pense que c'est plus protecteur pour les animaux.
Okay. C'est n'importe quelle infraction, on est d'accord. C'est pas forcément sur un animal, ça peut être du vol, dans un magasin.
Il est en sursis, il est en sursis. Donc en sursis, d'accord. On tient à carreau. En tout et voilà. Partout, voilà. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On se comporte en parfait citoyen.
Et lorsqu'il y a une interdiction d'avoir un animal de nouveau, est-ce qu'il y a une vérification sur ce fait ?
Alors là-dessus, la vérification, elle est souvent faite par les associations locales qui ont souvent été destinataires du signalement initial et qui ont été à l'origine de la plainte. et qui se sont constituées partie civile quand les choses sont faites parfaitement, parce qu'elles savent qu'il y a une peine d'interdiction, elles connaissent le gars, elles savent où il habite, et donc en général, elles veillent. S'il y a un problème, si on voit qu'il a repris un animal, on va aller déposer une nouvelle plainte, c'est une nouvelle infraction. On ne va pas repartir sur de la maltraitance, enfin sur des mauvais traitements ou ce pour quoi il a été condamné. On va faire un signalement, un dépôt de plainte pour la violation d'une interdiction prononcée par une juridiction. Alors, il n'y a pas de contrôle par une autorité quelconque. Et je sais que vous me posez la question pour ça, il n'y a pas de fichier. Il n'y a pas encore de fichier, et tout en disant il n'y a pas encore de fichier, je ne suis pas persuadée qu'un jour il y aura un fichier, en fait, pour tout vous dire, puisque ça implique des difficultés de mise en place par rapport à la protection de la vie privée. Parce que mettre en place un fichier, oui, qui va ressembler du coup à un tout petit bout de casier judiciaire, la question est qu'est-ce qu'on met dessus, et surtout la question la plus importante, c'est qui y a accès. Parce que le fait de confier un animal à quelqu'un, à un condamné, ça peut être un professionnel, on va retrouver des éleveurs, les animaleries, les associations, mais le gros problème pour moi par rapport aux animaux, c'est le particulier qui vend ou qui donne contre bon soin, c'est jamais les bons soins d'ailleurs. Voilà, parce que lui, on ne peut pas lui donner accès comme ça à l'aveugle à un fichier où il y aura des informations qui appartiennent à la vie privée de tout le monde, quoi. Donc il faudra trouver un système pour que ce fichier, les personnes qui y ont accès soient des personnes nommément désignées, mais voilà, ça me paraît très très compliqué en l'état actuel du droit, de toute façon.
En fait, ça pourrait être mis en place s'il y avait un permis, comme en Suisse ou en Belgique, pour détenir un animal.
Oui, vous avez le permis, vous avez un retrait de permis. Et quand vous voulez adopter ou acheter un animal, et il faut montrer votre permis. Et là, j'ai envie encore de rebondir sur le particulier. Le particulier qui, de toute façon, vend sur les sites en ligne, vend sur les réseaux sociaux, donne sur les réseaux sociaux, ne demande même pas à l'heure actuelle le certificat d'engagement et de connaissance qui est obligatoire. Les 7 jours de réflexion, le particulier, il ne connaît pas ça. Donc, tant que le particulier pourra céder ou donner contre bon soin, je pense qu'on sera bien dans la mouise au niveau d'une protection efficace des animaux lors de leur cession.
Et toi, est-ce que tu constates beaucoup de récidives ou pas, ou de non-respect de la loi derrière les condamnations ?
Quand il y a des peines d'interdiction, tu veux dire ?
Oui, par exemple, ouais. Oui, c'est ça.
Ouais, alors ça arrive qu'on se sente pousser des ailes et qu'on aille reprendre un chien. J'ai eu récemment le cas d'une association justement qui était à l'origine de la plainte. Qui est allé balader et qui a vu que le couple qui était interdit de détention d'animaux avait repris des chiens, recommencé la reproduction, comme en 40, tranquille. Donc on a redéposé une plainte. C'est des choses qui arrivent. Après, c'est pareil pour les professionnels. Certains pensent que quand ils ont une interdiction d'exercer une profession en lien avec les animaux, il suffit de changer de département et donc de DDPP pour qu'il y ait un droit à l'oubli. Oui. Mais non, les DDPP communiquent les unes avec les autres. Il y a quand même un historique. Donc voilà. Là, quand c'est un professionnel, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile à vérifier,
parce qu'il
y a des inscriptions obligatoires, etc., quand on les respecte. Donc, effectivement, ça va tilter au niveau d'une DDPP. Si le mec, il vient s'inscrire en tant qu'agriculteur, éleveur, et que dans une autre DDPP, ils savent qu'il y a une interdiction, ça va tilter. Voilà, ça, c'est au niveau des autorités. Mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est pas les choses qui peuvent être contrôlées par les autorités, c'est toutes les autres. C'est toutes les autres.
Quelles sont les situations que tu plaides le plus, les cas qui sont le plus amenés devant les tribunaux ?
Alors, sur le droit pénal, c'est les mauvais traitements. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup le buzz sur les actes de cruauté, etc., etc. C'est franchement pas la majorité des dossiers que traite un avocat en droit animalier au sens large. Après, quand on se focalise dessus, effectivement. Mais objectivement, moi, les dossiers viennent à moi. Je vais pas les chercher, on n'a pas le droit. C'est surtout des mauvais traitements. Un mauvais traitement, c'est vraiment une méconnaissance des besoins de l'animal. Et je rebondis sur le certificat d'engagement et de connaissance, qui est obligatoire désormais et qui va rendre beaucoup plus difficile le jour d'une audience devant un tribunal de police ou même un tribunal correctionnel quand c'est un professionnel, de dire « je savais pas ». Parce que le certificat d'engagement et de connaissance qui vous explique les besoins de l'espèce que vous vous apprêtez à acquérir, vous êtes obligé de le signer. Donc normalement, vous êtes obligé de le lire et vous êtes obligé de réfléchir 7 jours. Donc si, une fois que vous avez lu, vous avez signé, vous avez réfléchi 7 jours, vous prenez un animal, vous ne pouvez pas expliquer que derrière, que vous ne saviez pas qu'un husky, il fallait qu'il mange plus de 80 grammes de croquettes par jour. Ça va être compliqué, disons. Avec moi en face, ça sera un peu plus compliqué.
Voilà.
En parlant de buzz, est-ce que ça t'aide, par exemple, quand il y a des buzz sur les réseaux sociaux, ça te dessert? Ça te, tu vois ce que je veux dire? Par rapport aux commentaires,
moi,
tout ça, etc.
Ouais. Moi, ça me gonfle.
C'est
parce
mieux qu'il
n'y
en ait pas, quoi.
On se retrouve, alors la médiatisation, c'est bien en un sens parce que ça porte à la connaissance des gens ce qui se passe. Des médiatisations comme celle que fait L214, des choses comme ça, ça me paraît essentiel parce que c'est des choses que les gens n'ont pas conscience. Donc c'est bien de leur apporter des informations. Après, le buzz sur le gars qui a égorgé son chien, éventré, voilà, tout ce que vous voulez, le truc du sang des tripes, pour moi ça ne sert à rien, ça sert juste à attiser la haine, générer des commentaires d'insultes, de menaces, éventuellement des violences physiques, parce que ben, parfois il y a même l'adresse qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Et le jour de l'audience, quand moi je me retrouve à avoir envie de parler de la souffrance de l'animal, en face on me ressort tous les print écrans de tous les petits commentaires, les insultes,
c'est ça que je voulais
etc.
savoir.
Et là on me retourne la crêpe et c'est le gars qui devient une victime. Voilà, donc on parle de lui pendant 10-15 minutes. Et c'est vraiment gonflant quand on est là pour parler des animaux, les vraies victimes, parce que les gens, c'est facile derrière son écran d'insulter, de menacer, de ce qu'on veut, et c'est totalement contre-productif. Donc non, moi le buzz, voilà, je préfère, j'ai des dossiers d'actes de cruauté, j'en parle jamais avant les audiences, après je fais un compte-rendu d'audience sur la page du cabinet, mais voilà, je publie jamais aucune photo, de toute façon on n'a pas le droit de le faire, ça fait partie du dossier pénal, on n'a pas le droit. Voilà, ça n'apporte rien en fait. Et pour moi, c'est vraiment par rapport à mon travail. Parfois, je ressens ça comme du sabotage, quoi. Je me dis, mais bon sang, on est là pour parler des bestioles et on se retrouve à l'audience pendant 10 minutes. Et quelque part, je le cautionne pas qu'on insulte les gens, qu'on menace les gens, etc. Donc voilà, non, moi la médiatisation, ça n'a aucun intérêt dans le cadre des dossiers d'actes de cruauté, j'ai envie de dire, individuels. Après qu'on médiatise les peines, ça oui, qu'on médiatise les peines pour que l'abruti de service qui a envie de tabasser son chien, il sache ce qu'il risque, là je dis oui. Après, médiatiser sur « il a souffert, il lui a fait ci, il lui a fait ça », non, je vois pas l'intérêt, franchement je vois pas l'intérêt.
Mais pour l'affaire dont on a parlé là récemment avec le petit chien qui a été euthanasié suite à une éventuelle rage qui n'existe pas, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Ou déjà,
qu'est-ce qui était possible de faire?
Ce dossier-là. Après, quand il y a une suspicion de rage au niveau d'un département, la préfecture a tout à fait la possibilité d'ordonner à titre préventif l'euthanasie non seulement de l'animal, mais également des animaux dans un certain périmètre. Ça, c'est la loi, c'est la réglementation. Ouais. C'est pas une fantaisie, c'est pas un caprice. C'est la réglementation à titre préventif. D'où l'importance de vacciner son animal contre la rage, parce qu'avec toutes les importations d'animaux de pays qui sont pas exemples de rage, si un jour, on trouve un chien qui est effectivement infecté de la rage dans votre quartier. La préfecture aura tout à fait la possibilité et sera légitime à le faire en plus, parce que c'est une maladie qui est grave pour les animaux et les humains, d'ordonner l'euthanasie des animaux sur un certain périmètre. Donc on rigole pas avec les importations aussi.
Est-ce que tu as l'impression qu'en en droit animalier, sur ces dernières années, on a fait des avancées, des pas en avant, ou pas du tout?
Ah bah oui.
Vraiment
bah,
au niveau des textes de loi.
Ah oui, bah déjà si on regarde en arrière, alors au niveau des textes de loi, oui, mais tout est lié. Parce que les textes de loi, ils arrivent parce que la science avance, parce que les consciences évoluent et qu'il y a une pression sociétale qui fait que le législateur, à un moment donné, se retrouve un petit peu obligé de faire avancer les choses et de protéger la réalité de ce que sont les animaux. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on sait, il faut faire. Donc voilà, oui, bien sûr qu'on a avancé. Et puis, cette loi du 30 novembre 2021, c'est une grande avancée. C'est un truc qu'on attendait longtemps, depuis longtemps, sur l'aggravation des peines. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusque-là, le fait de trucider un animal nous faisait encourir une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Alors qu'à la même époque, voler un vélo, c'était 3 ans, 45 000 euros. Il y a quand même un truc qui gêne quelque part. Donc là, on est venu réparer, j'ai envie de dire, une aberration. On est passé à 3 ans, 45 000 euros. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la base. On est venu créer des circonstances aggravantes qui, moi, me paraissent essentielles. C'est-à-dire que déjà, si c'est votre animal qui subit les faits, bah, c'est 4 ans, 60 000 euros. Si vous commettez les faits en présence d'un mineur, c'est 4 ans, 60 000 euros. Et ça, c'est hyper important parce que ça y est, on a compris en France qu'il y avait un lien entre les maltraitances sur les animaux et les violences domestiques. Que la violence, c'est la violence, hein, en fait, tout simplement, on vient de comprendre ça. Et un truc qui est super important, c'est que le législateur, il a tenu compte des conséquences sur l'animal. C'est-à-dire que si l'animal, il meurt, là, c'est 5 ans, 75 000 euros. Donc, voilà, non, ça, c'est des avancées qui sont hyper importantes. Après, ben, le certificat d'engagement et de connaissance et le délai de réflexion de 7 jours, c'est une super avancée quand on le respecte. Alors après, bon, on a tapé sur les animaleries. Moi, personnellement, je n'ai pas compris. Si on met en place un certificat d'engagement et de connaissance et une période de réflexion de 7 jours, pourquoi on interdit derrière aux animaleries de vendre des chiens et des chats alors qu'elles sont aussi soumises à ça? Pourquoi on n'interdit pas aux particuliers? Vous voyez, parce que l'animalerie, on me dit non, mais plus de chiens, plus de chats en animalerie parce que c'est des achats compulsifs. Bah non, c'est plus possible les achats compulsifs. Il y a le certificat d'engagement et de connaissance. Donc, ou c'est un achat compulsif, ou c'est plus un achat compulsif qu'ailleurs. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut s'attaquer aux bonnes cibles. Et sauf que ben, quand on s'attaque aux bonnes cibles, c'est plus compliqué. Voilà, c'est les particuliers, c'est les lobbies, et ça, c'est très compliqué. Alors, la loi de 2021, elle a apporté des avancées, évidemment, mais il faudra continuer. Mais on sera obligé, de toute façon, de continuer, parce qu'il manque des choses.
C'est cette loi-là aussi qui a interdit aux particuliers de vendre sur les réseaux sociaux des animaux, qui est détournée par le fait qu'ils font leurs annonces en disant « je donne », alors qu'en fait, quand on va les contacter, ils vont demander de l'argent.
Non, il y a juste
en
des
retour,
conditions,
c'est pas
de,
ça.
Des mentions obligatoires. Un particulier a tout à fait le droit de céder un animal, hein. Mais il y a juste
mais pas
des
à la vente, pas contre-financé.
Si.
Pas contre-finance. Ah si, je pensais que c'était interdit de vendre un animal.
Si vous vendez un chiot ou un chaton de votre femelle reproductrice, vous êtes considéré comme un éleveur. C'est pas plus compliqué.
Et il faut pas une autorisation officielle.
Vous êtes considéré comme un éleveur à partir du moment où vous vendez un chiot ou un chaton de votre chienne. Donc à ce moment-là, évidemment, il faut s'inscrire, il faut avoir un numéro RCS, sauf si c'est du lot, si c'est une portée par an. Enfin, après, il y a des subtilités techniques, on va pas pouvoir rentrer dans les détails.
Le
simple particulier a toujours la possibilité de mettre une petite annonce et de vendre un chien, un chat, tout ce qu'il veut, ou de le donner contre bon soin.
Ok.
Et quelle est la peine la plus importante que tu aies réussi à obtenir?
Alors, la peine
la plus lourde
elle a été prononcée contre un président d'association de protection animale. Parce que, voilà, dans ce monde, personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc. Il y a des pourris partout. Et lui, il a été poursuivi pour... déjà, il avait détourné plus de 60 000 euros à l'association qu'il présidait. Et on a trouvé à peu près 80 chats enfermés dans des conditions pas possibles, pas vaccinés, pas stérilisés, tous malades. Il a fallu en euthanasier une bonne partie. Donc, il était aussi poursuivi pour mauvais traitement par un professionnel. Donc, du coup, délit. Et voilà. Donc, lui, il a pris 30 mois d'emprisonnement, dont 18 avec sursis. Il a été condamné à rembourser toutes les sommes qu'il avait escroquées à droite, à gauche, puisqu'il n'y avait pas que l'association, il y avait aussi des donateurs, il y avait aussi des entreprises mécènes. Donc voilà, c'est la peine la plus lourde en termes d'emprisonnement et de dommages à intérêts que j'ai vus. Après, des peines lourdes, il y en a. Hein, la nana qui avait brûlé le chien Fuji, qui avait brûlé vif ce chien, elle a pris 2 ans ferme, quoi. Mais jusqu'à 2 ans, c'est aménageable. Ouais.
Oui.
Mmh. Voilà. Et comment tu arrives à gérer le côté affectif? Est-ce que c'est difficile parfois d'entendre justement les méfaits qui ont été faits sur les animaux?
Alors c'est pas évident, hein, je m'éclate pas tous les jours. Mais alors déjà, je pense qu'il y a une question de caractère. Moi, j'ai un caractère qui est assez dur. Et j'arrive à faire la part des choses, c'est très facile. Quand je sens que ça monte et que je sens que je vais commencer à couiner, Je me mets dans la tête que moi, je vois les dossiers sur des photos. C'est-à-dire que les animaux qui souffrent, je les vois sur mes dossiers pénaux en photo. Et je me mets à la place des gens des associations, les bénévoles, qui, eux, le voient en direct. Ils ont les bruits, ils ont les odeurs, ils croisent les regards. Eux, ils peuvent se plaindre, ils peuvent couiner. Moi, ça me permet de relativiser, de me dire, voilà, moi, je le vois sur photo et j'ai toujours à l'esprit le fait que moi, je suis une professionnelle du droit. On vient me chercher parce que je suis une professionnelle du droit. Je ne suis pas là pour pleurer, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Je suis là pour faire un travail d'avocat. Donc, si je commence à flancher, je ne sers plus à rien. Donc, voilà, comme j'ai envie d'être utile et de faire mon boulot correctement... Je relativise.
Prendre la distance.
Et je pense qu'il faut avoir le caractère pour. J'aurai un caractère autre, peut-être que j'y arriverai pas, malgré ma bonne volonté. Mais non, j'ai un caractère qui me permet d'arriver à faire la part des choses et de rester focalisé sur l'objectif, en fait.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'on est très nombreux à justement avoir du mal parfois à ne pas rentrer vraiment dans l'émotion et à bien savoir garder du recul pour les actions qui. Vont suivre.
Ouais, c'est un truc que j'ai pas réussi à faire, par exemple, pour les vidéos.
Je sais, ouais. C'est très dur.
Il y a un confrère suisse qui m'a dit, il y a bien longtemps, et j'y pense souvent, Antoine Guetschel, il est du côté de Zurich, et lui, c'est pareil, il fait du droit animalier. Et un jour, il m'a dit, il m'a donné un conseil, il m'a dit, de toute façon, quand vous plaidez, c'est le cœur chaud, mais la tête froide. Et effectivement, voilà, ça n'empêche pas de ressentir des choses. On n'est pas des machines, évidemment. Mais moi, je ne vais pas aller m'apitoyer le jour d'audience, essayer de faire pleurer le magistrat. Moi, je parle de droit, je parle technique. Je suis un avocat. Je ne suis pas ni une comédienne, ni une pleureuse. Voilà, en Grèce, on a inventé les pleureuses, mais moi, ce n'est pas mon job. Donc voilà, je fais mon boulot en tant que technicienne.
Mais en off, on va dire, ça peut t'arriver quand même. Hors procès.
Quand je vois certains dossiers, c'est jamais facile. Après, comme je disais il y a quelque temps, j'ai jamais, comme quoi c'est vraiment une question de caractère, j'ai jamais pleuré en regardant un dossier pénal, sauf quand j'ai regardé un dossier qui m'a conduit à aller plaider aux assises en novembre dernier. Là, on était quand même à un niveau que même dans mon esprit, que j'en vois tous les jours, j'imaginais pas. Et là, j'ai pleuré pour la première fois en regardant un dossier. Mais j'ai pleuré, et puis c'est passé, et j'ai fait le job. Et il a pris perpète.
D'accord.
Perpète, c'est-à-dire ?
Perpétuité.
Ah, pour, par rapport à un
il
cas
était devant
de,
la cour
de maltraitance
d'assises.
Animale.
Donc, il y avait d'autres infractions.
Il n'y avait pas que ça.
Des actes de cruauté, zoophilie, viol sur conjoint avec acte de barbarie, etc. etc.
Ouais. Ah, il a fait la totale. Donc, quoi.
Oui, ok, parce qu'il y avait aussi d'autres actions qui concernaient.
Il y avait côté humain et animal, il y avait tout.
La cour d'assises. Non, il n'y a pas de cour d'assises pour les animaux. Et c'était d'autant plus.
C'était un plus symbolique.
C'était quand même dingue de parler de bestioles devant une cour d'assises, quoi, parce que c'est le truc qui n'arrive jamais. Et c'était à la fois dingue et à la fois quelque part un peu abject, parce que s'il n'y avait pas eu de victime humaine, j'aurais pas pu parler de bestioles. Donc je ne pouvais pas non plus m'en
sortir. Il n'a pas pris autant, quoi.
C'est comme tout à l'heure quand tu parlais. Pardon. Quand tu parlais du président de l'association, s'il a eu une perne assez lourde, c'est sans doute aussi par rapport à l'escroquerie, peut-être plus encore que par rapport à la souffrance animale qui avait été. Avéré.
Non, c'était vraiment un tout. C'était vraiment un tout.
D'accord.
Puis lui, dans son cas, les mauvais traitements, c'était par un professionnel. Donc, c'était un délit aussi. Voilà. Et puis, c'était une... Il y avait effectivement le côté argent, mais il y avait quand même une grosse trahison morale. Parce que l'argent, il le réclamait sur une cause particulière. Donc, il trahissait moralement tous les donateurs d'associations, etc., etc. Donc, on a vraiment parlé d'animaux. On n'a pas tellement parlé de pognon pendant l'audience. On a surtout parlé d'animaux. Effectivement, on a parlé du pognon, parce que s'il y avait eu les 60 et quelques mille euros dans les caisses de l'association, tous les animaux qui étaient en train de crever chez lui, ils auraient pu être soignés, stérilisés, identifiés et compagnie.
Oui,
c'était une cause à effet. Ouais. Et justement, en termes financiers, de quelle façon tu te rémunères? Est-ce qu'il y a un barème? Est-ce que ça dépend des avocats? Comment ça se passe financièrement?
Tout dépend des affaires, tout dépend du client, évidemment. Moi, j'ai fait le choix de pratiquer des honoraires qui sont raisonnés. Je travaille un peu plus pour gagner beaucoup moins par rapport au droit des affaires, évidemment. Après, tout dépend ce qu'on recherche. Créer un cabinet 100% droit animalier, j'ai envie de dire, c'est un choix de vie. Hein. Derrière, il faut l'assumer. Et évidemment, moi, mon salaire, il a été divisé par 3. Je ne suis jamais chez moi, je suis tout le temps en déplacement. C'est un choix de vie. Mais quand on le fait, qu'on l'a choisi et qu'on l'assume... Moi, je suis heureuse, hein. Je me lève le matin, je suis heureuse. Alors, c'est pas facile tous les mois, faut pas croire qu'en faisant du droit animalier, on est riche. Faut pas le faire pour ça, surtout pas. Parce que sinon, on risque de tomber un petit peu de haut. On est dans une profession où il y a beaucoup de charges, en fait. Donc, le pro bono, c'est pas possible. Pro bono, ça veut dire travailler gratuitement chez nous. Parce qu'on aime bien parler latin chez les avocats. Donc, le pro bono, c'est pas possible. C'est possible quand vous faites autre chose à côté. Mais c'est pas parce qu'on fait du droit animalier. Moi, je trouve en plus que ça dévalorise la matière. Je veux dire, il y a aucun avocat dans aucune autre matière qui travaille gratuitement. Pourquoi nous, on travaillerait gratuitement? Oui, on a du cœur. Mais à côté de ça, si on veut faire de la qualité, se former, payer nos charges, etc., etc., et justement ne faire que ça, ben, on est obligé de facturer. Et tout travail mérite salaire. Un travail de qualité, en tout cas, mérite salaire. Et moi, je m'attelle à offrir un service de qualité à mes clients.
Bien sûr. Il y a beaucoup de cabinets qui se spécialisent en droit animalier ou d'avocats qui se spécialisent en droit animalier, ou ça fait partie de majoritairement, à part ton cas où tu as vraiment cette spécialité-là, d'avocats ou de cabinets d'avocats qui font aussi du
plus,
des causes beaucoup plus variées, générales, je ne sais pas comment.
Il y a énormément d'avocats, de toute façon, qui font du droit animalier à côté d'une autre matière. Et puis même un avocat qui ne se revendique pas avocat en droit animalier va, à un moment donné de sa carrière, se retrouver à faire du droit animalier. Je veux dire, je fais du droit des affaires, je vais un jour me trouver dans un litige où il y a des chevaux, par exemple, et ça va être du droit commercial. Je vais pas revendiquer que je suis avocat en droit animalier, mais je fais quand même du droit animalier, puisque les animaux sont partout. Donc tous les avocats, dans au moins un ou deux ou trois dossiers, vont se retrouver avec des bestioles. Après, le fait de ne faire que ça, on n'est pas nombreux, bien sûr, on n'est pas nombreux parce que c'est pas une matière qui est très rémunératrice. Quand on n'a pas un client institutionnel qui nous garantit un apport de dossier tous les mois, effectivement, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, quoi. C'est un peu la bohème, mais en même temps,
c'est un choix. Tu travailles plus avec des particuliers ou des associations ?
Tout dépend des domaines, en fait. Sur du pénal, je vais beaucoup plus travailler avec les associations, bien entendu. Sur l'aspect civil, responsabilité, les chiens mordeurs, droit de propriété, etc., ça va être plus sur du particulier. Je vais travailler aussi sur des professionnels, sur des sociétés, avec Céline Pécavi, sur tout ce qui est la rédaction de contrats, sur tout ce qui est les litiges contractuels. Donc c'est très varié, en fait. C'est varié en tout et pour tout, et au niveau des dossiers, et au niveau des clients, et au niveau des procédures. Donc c'est pour ça qu'il faut être... c'est un vrai boulot, en fait.
Ah oui, ouais, complètement. Ouais.
En termes de formation pour les jeunes étudiants qui nous écoutent, peut-être, qui voudraient se lancer dans... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme formation, et où, surtout ?
Alors, une formation complète, il n'y en a pas. On se forme tout seul. Moi, j'ai fait le DU de droit animalier de Brive-la-Gaillarde. Il y en a plein d'autres qui ont été créés depuis, à droite, à gauche. Je ne peux pas donner d'avis, je ne les connais pas. Celui de Brive-la-Gaillarde, moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça n'a pas fait de moi un spécialiste en droit animalier. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas en 15 jours qu'on devient spécialiste en droit animalier. Néanmoins, ça permet de visualiser l'étendue de la matière. Parce que le droit animalier, c'est vrai que c'est pareil. Hein. Moi, quand je suis arrivée au DU, dans ma tête, c'était beaucoup droit pénal. Et puis, je n'avais pas forcément pensé à tout ce qu'il y a autour. Donc, ça permet de voir ça, l'ampleur de la matière. Ça permet de voir déjà si ça nous plaît. De voir peut-être un aspect de la matière qui va nous intéresser un peu plus. Et après, de voir ce qu'on veut en faire. Mais derrière, il faut évidemment encore se former. Moi, j'ai eu le DU en début 2017, je crois. J'ai plaidé pour la première fois, c'était fin 2018, je me suis formée. C'est pas avec 15 jours de cours que j'ai pu me lancer comme ça à l'aveugle, prendre un dossier en termes de responsabilité. On a quand même une certaine responsabilité en tant qu'avocat professionnel du droit, donc on n'improvise pas. Donc on peut faire pour faire, mais moi, ce que je voulais faire, c'était faire bien. Donc ça prend du temps de faire bien, il faut se former et puis derrière être sûr d'avoir un service qui est béton, quoi.
Complètement. Eh ben parfait. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin
de notre
entretien.
Je sais pas si tu vois des choses à rajouter dont on n'a pas parlé.
Olivia.
Niveau droit animalier.
Si tu veux te préciser certaines choses.
Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets.
On a dit qu'on avance. Ouais. C'est important de garder ça à l'esprit, ouais. Même si ce n'est pas tous les jours facile de rester optimiste. Il ne faut pas se décourager. La sensibilisation à ce que sont les animaux, c'est une boule de neige, en fait. Une fois qu'on est sensibilisé, on ne se désensibilise pas. Au fur et à mesure qu'on connaît l'animal, on prend conscience de ce qu'il est et puis on prend conscience qu'on a des obligations envers lui. Le législateur aussi, et puis on y va, toujours freiné, bien sûr, par des contre-pouvoirs, des lobbies, etc. Mais enfin, ça avance, ça a avancé en 10 ans, ça va continuer d'avancer.
Normalement, c'est vite. Protection animale, c'est vrai que c'est ça, c'est que ça avance, mais très lentement, quoi.
C'est jamais assez vite quand on voit le nombre d'animaux qui meurent à chaque minute, évidemment, c'est jamais assez rapide, mais ce qui compte, c'est qu'on aille dans le bon sens et qu'on avance, qu'on stagne pas, parce qu'on stagne pas, là on avance.
Oui, c'est vrai.
Et si on est confronté justement à une barbarie envers un animal, il faut absolument contacter une association, qu'est-ce que tu en penses, de quelle façon ça aboutit le plus rapidement?
En tant que particulier, vous n'avez pas qualité pour agir et déposer plainte. Alors, si y a quelqu'un qui est en train de tabasser son animal dans la rue, là, vous appelez les forces de l'ordre illico parce que il y aura flagrance et il va falloir le stopper tout de suite. Après, si c'est quelque chose d'habitude, si c'est votre voisin que vous voyez régulièrement tabasser son animal, déjà, vous allez prendre des images et puis vous allez faire un signalement à une association. Il faut toujours qu'il y ait quand même un début de preuve parce que les signalements pour conflit de voisinage, ça fait perdre un temps de dingue, que ce soit aux associations ou des DPP. On dit « Ah, des DPP, elles ne bougent pas ». Mais le nombre de signalements fantaisistes qu'ils reçoivent et sur lesquels ils perdent un temps précieux, donc il faut vraiment apporter, j'ai envie de dire, de l'eau au moulin de la personne auprès de laquelle vous allez faire le signalement, association, DDPP, donc service vétérinaire de la préfecture, ils ont une adresse mail, vous appelez le standard de la préfecture, on vous donnera l'adresse mail, mais il faut effectivement apporter de la matière, il va falloir se mouiller, mais de plus en plus de gens se mouillent, avant c'était « Ah non, mais moi je dis rien, j'ai peur des représailles », alors faut savoir, des représailles, il n'y en a jamais. Le gars qui tabasse un chien, il n'est pas courageux au point d'aller tabasser un être humain, ou alors peut-être son gamin ou sa femme, mais pas un être humain qu'il connaît pas et certainement pas son voisin. Donc des représailles, dans les faits, il n'y en a jamais. Et les gens, maintenant, ne ferment plus les yeux. Ils ne supportent plus. Donc, on parle de plus en plus. Et de plus en plus, quand on fait les signalements aux associations, il y a des images, il y a des témoignages écrits. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que le jour où on dépose une plainte, si on ne fait que déposer une plainte, ça va être long, ça va être compliqué. Si on dépose une plainte et qu'on joint une vidéo, qu'on joint des photos, qu'on joint des attestations de témoins, déjà, on a une certaine crédibilité qui fait qu'on va passer sur le haut du tas. Parce que des plaintes, ils s'en déposent, mais des milliers et des milliers chaque jour.
Oui. Merci pour ces informations à retenir et ne pas avoir peur donc d'intervenir. Souvent, les gens, comme tu le dis, les gens ont un peu peur. Et donc, il y a des représailles, etc.
Il n'y a pas de raison. Il faut partir du principe qu'on a affaire à un lâche.
Oui, c'est vrai.
Exactement.
Du coup, avec ces
paroles,
et puis on va terminer le podcast par quelque chose de plus léger. On aime terminer le podcast par une interview. On appelle ça juste entre nous. On va te poser trois petites questions plus détentes, on va dire. Vas-y, je vais commencer comme ça. Je sais de quoi ce que tu vas dire du coup. Alors, quel livre faudrait-il lire absolument?
Alors, je vous recommande chaleureusement « Au nom de tous les animaux » par Olivia Signekos et Valérie Perronnet aux éditions Les Arènes. Alors en plus, si vous achetez le livre, qu'il vous plaît, vous prenez une petite photo de votre bestiole avec le livre et je l'intégrerai au trombinoscope du dimanche soir sur la page du cabinet. Il y a plein de bestioles et pas que des chiens, des chats. Il y a plein de bestioles qui ont lu ce livre.
Marrant que tu dises « bestiole ».
Oui, mais c'est
affectif dans ta bouche, hein, on est d'accord.
Moi, bestiole, c'est vraiment un mot affectueux. Des fois, même c'est machin, mais c'est affectueux. Ouais, on avait un loir chez nous qui s'était installé, on l'avait appelé machin. Bestiole, ça englobe tous les animaux, parce que quelque part, le mot animaux englobe l'être humain.
Tout à fait.
Bestiole n'englobe pas l'être humain, si vous voyez ce que
Alors,
je veux
dire. Alors, d'accord, bestiole, c'est les animaux non humains, par définition. Moi, je crois que d'ailleurs, tu as des animaux au moins. Voilà. tu as un animal, voire des animaux chez toi? Parce que je crois que sur tes pages de réseaux sociaux, on les voit.
Oui, ah oui, c'est ouais, j'ai trois chats récupérés de la rue, un bantam que j'ai récupéré à 15 jours, abandonné par sa maman, donc j'ai joué la maman chat pendant 2 mois, il venait partout avec moi, mais c'était dingue parce que moi j'avais jamais été une maman chat, hein, et je pense que j'ai pas été top non plus, parce que bien sûr, comme tous les chats qui sont pas sevrés par leur maman, il a des troubles du comportement, donc à éviter. On n'oublie pas qu'on ne sépare pas un bébé animal de sa maman avant. On dit 2, mais ce serait bien 3 mois. Donc bantam, voilà, petite crotte comme ça. Et puis, Kinou, un chat qui a plus d'oreilles parce qu'il a eu des carcinomes et qui était fusionnel avec une autre minette qui s'appelle Kinette. J'ai beaucoup d'imagination pour les noms. Donc j'ai pris les 2. Je voulais pas les séparer. Faut pas séparer les gens qui s'aiment. Donc donc du coup ça fait 3. On est une petite meute de chats.
Trio qui t'accompagne.
C'est eux qui font la loi, c'est pas moi.
Oh bah ça on connaît bien.
Ouais. Les chats.
Donc moi je me suis déjà procuré ton livre que j'ai commencé à parcourir, et par contre j'ai 7 chiens, donc ça va être possible pour les photos.
Ah bah oui.
Ouais. Allez.
Il y en aura 7.
Séance photo.
x7.
Ah non, c'est sympa. C'est tous les dimanches soirs, on fait un petit trombinoscope avec les animaux, des gens qui, enfin des lecteurs du livre, et voilà, ça montre un petit peu qu'il y a des chiens, des chats, mais il n'y a pas que ça, quoi.
On le retrouve où exactement ce trombinoscope ?
Pardon ?
On le retrouve où exactement ce trombinoscope ?
Sur la page Facebook du cabinet. Ah moi je suis sur Facebook, je suis
d'Animalex.
Sur le réseau des boomers.
Déjà, tu connais le mot boomer, déjà.
Nous aussi.
Ouais, pareil.
Bon, en tout cas, c'est super gentil de nous avoir accordé ton temps.
Merci pour toutes ces informations très intéressantes, en tout cas.
Oui, passionnant.
Eh ben, merci
et pour ton optimisme.
Ouais.
Ça fait du
bien.
Bah,
il faut en avoir, de toute façon. Il faut en avoir, parce que sinon, on ne sert plus à rien. Si on se décourage, on ne sert plus à rien.
Exactement, c'est ce qu'il ne faut pas oublier.
Ouais. Et puis, nous, on va dire au revoir à tous nos auditeurs, du coup.
Merci, Olivia.
Merci.
Eh ben, merci
à tout le monde.
Merci à
d'être là.
Et puis, à très bientôt.
Eh oui.
Ciao.
Au revoir. Merci.